Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Le Super Moscato Show sur RMC, il est 16h05, vous êtes avec nous tranquille l'après-midi pendant vos vacances?
Oui.
Ou alors au travail?
Bon courage, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent le travail en août, 10 août, il y a des gens qui sont en turbin.
Le casque sur les oreilles,
regarde-nous là
devant le bureau, on fait semblant de bosser sur le dernier projet, et puis on écoute RMC.
Ah, c'est quoi le dernier projet? Ça fait signe,
c'est pas le dernier
tu tapes
projet,
un truc sur ton ordinateur.
Je sais pas moi, combien on a fait de ventes depuis cette semaine, je sais pas moi.
Des gens qui ont des vrais métiers, quoi, oui. Enfin, pas comme nous en fait.
Combien on a vendu de panneaux d'affichage à la mairie de Beson, par exemple?
Non, mais tu sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, des boulangers par exemple.
Ouais.
Ils écoutent en podcast à 4h du matin en train de faire le pain. Donc on les salue, Ami Boulanger, oui. Ils travaillent toute l'année.
Est-ce qu'on a corrigé les défauts de l'algorithme pour nous a demandé le patron?
Mais c'est quoi ces boulots? Ça c'est dans des boîtes de consulting.
Voilà.
Il y a plein de gens qui bottent dans des boîtes.
Est-ce qu'on accorde pas le prêt à monsieur et madame Durand pour l'achat de leur corps de ferme?
On va leur accorder, oui.
À rénover, hein, 100%. Hein. Ça coûte des sous. Hein.
On a un joli programme, Pierrot, jusqu'à 18h. Ne loupez pas, par exemple, le journal moyen à 16h45 avec... Vous adorez ça, je le sais. Plein de mâchoires paralysées. On aime bien se moquer des bafouilles.
Juste avant, il y aura les Jeux Olympiques en direct d'Albertville, mais bien sûr les Jeux Olympiques de Milan-Cortina avec les médaillés de biathlon. France-Brésil, qui c'est le plus fort entre Zidane et Ronaldo. Et puis, dans la deuxième heure, débat Jalibert, débat sur les...
Dans la troisième heure, pardon.
Ce sera 17h. Débat sur les trois grands tours en cyclisme et un petit cadeau. Car c'est comme ça, dans ces best-of, on vous fait des petits cadeaux.
Encore ?
Pour rigoler, gratuitement.
Ah, le même genre de cadeau que tu nous as fait avant le départ du tour féminin ?
Oui, j'ai demandé ça à Suzanne.
Pas beau !
Qui n'a pas eu besoin de beaucoup se faire prier, hein, je vous le dis tout de suite.
Pierrot, du foot, nous, on a la chance tous les jours depuis 20 ans de travailler avec une légende de l'OM. Il est labellisé, il a le tampon, légende de l'OM, Eric Dzimeko. Il n'y a pas de débat.
Mais il y a d'autres qui prétendent à cet honneur. Est-ce que c'est le cas de Florian Thauvin, par exemple?
2015, poussé vers la sortie en fin de saison pour renflouer les caisses.
C'est de la baronnerie pure et dure. Moi, j'appelle ça du jacobanisme.
Ouais, Thauvin ne voulait pas partir.
Et il est pas parti. Il est pas parti.
Mais rejoint Newcastle pour 5 ans.
At King Studs, Wawa Hut.
6 mois plus tard, Thauvin est déjà de retour.
Alors, rarement titulaire indiscutable.
Bilan statistique ébouriffant.
Par rapport au fait qu'il cache la cause de. Il cache la cause. Il cause la cage, pas... non.
22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1.
Une stat qui donne le vertige.
C'est vrai ça cache toutes les coches.
Et une convocation en équipe de France.
C'est ça, et puis il est fier d'avoir le maillot avec le coq, Thauvin.
Un dernier fait d'armes avec un but au Parc des Princes. Il marque encore un peu plus l'histoire du club.
Et je m'en souviendrai toute ta vie.
C'était pour le sortir de l'embarras, le pauvre.
Pierrot, si un jour j'ai un gros souci dans ma vie, je sais qui appeler. Ah bah oui.
Si Vincent m'était bien aussi, il avait dit Morico.
Oui, il était.
Si vous avez envie de rigoler gratuitement, vous pouvez podcaster les productions de Suzanne sur rmc.fr, rubrique podcast Moscato Show.
C'est le bon monteuse.
Si tu devais la comparer, mettons à Loïc, par exemple.
Loïc, quoi, Loïc, c'était différent. Lui, il était passionné d'autre chose.
Il cherchait la coupole. Thauvin au Vélodrome, 4 ans et demi après son départ, 8 saisons, écoute ça, 281 matchs, 86 buts, 62 passes décisives, mais pas de titre. Thauvin, c'était le chouchou du Vélodrome avec Dimitri Payet pendant près d'une décennie, mais pas de titre, on le répète, c'est tout l'enjeu du débat.
C'est l'enjeu.
Y a quand même une finale de Ligue Europa, ce qui est pas mal, ça marque quand même les esprits. Florian Thauvin est-il une légende de l'OM pour vous? 32-16, Twitter, hashtag RMC Live ou WhatsApp 06 12 424 424. La parole est à Vincent Moscato.
Non, mais un très très bon joueur dans une équipe, il passait 5 ans, 8 ans, 10 ans, tout ce que tu veux, tu peux, même, je vais te dire, même en gagnant des titres, ne pas être une légende. Une légende, c'est autre chose. Une légende, c'est, alors, gagner ou pas gagner, parce que Serge Blanco, on le disait tout à l'heure, elle n'a pas gagné avec Biarritz, c'est une légende du rugby.
Du BO.
Une légende du BO, c'est oui. Une légende du BO.
Francesco Totti est une légende de la Roma.
Il a gagné.
Et en contrepartie, il y a des joueurs de 93 à l'OM qui ne sont pas des légendes.
C'est vrai.
Oui, parce que des mecs que tu ne sont pas
des légendes de l'OM.
Qui ne sont pas des légendes de l'OM. Et d'autant plus, si tu gagnes rien.
Est-ce que Drogba est une légende de l'OM pour toi?
Mais non, Drogba c'est un fantasme.
Bonne question.
Mais non, mais Drogba c'est un fantasme.
D'accord.
C'est le mec que tu as, que tu veux, qui est là, qui est fantasme.
Il a été là un an, il a fait des trucs extraordinaires.
Oui, mais c'est pas une légende.
Pour les supporters, il est légendaire.
Oui, mais il est légendaire. Non, c'est parce que c'est le joueur de foot qui est légendaire. C'est pas une légende de l'OM. C'est une légende pour tout le monde. Voilà.
Mais il a été très bon à l'OM, attention.
Il a été très bon un an. Une légende, c'est Basile Boli qui met un coup de casque dans le ballon.
C'est un mec qui reste dans un club.
Et voilà.
Et même pour l'URSSAF de Bordeaux, c'est une légende.
Est-ce que Steve est une légende à Nanterre?
Oui.
À Nanterre, oui. À Nancy.
Non. Non.
À Brest, pas du tout.
Florent Thauvé. Les mecs se disent, ah ouais. Lui, il est jeune.
Pas légende.
Mais il a joué à l'OM dans 5 ans, je te dis, dans 5 ans. Alors, il a pas joué. Eric, ça fait 40 ans qu'il boite, que tout le monde sait, qu'il ressemble plus à un joueur de foot, tout le monde sait qu'il a joué à l'OM, qu'il était champion.
Magnusson, Escobar, personne ne les a vu jouer dans notre génération.
C'est la même. Jean-Pierre Papin, c'est pareil.
Je dis Magnusson, Escobar, nous, on connaît ce nom,
voilà.
Ces noms, on les a jamais vus jouer, nous. Jamais.
Voilà. Mais on sait que c'est
tout. Le vieux joueur de Barcelone, comment il s'appelait,
Lucien Muller.
Non, ou alors de Madrid, je sais plus.
Pas pareil.
Ah, Di Stéfano.
Di Stéfano, t'as compris que personne n'a vu, même pas Eric qui l'a vu jouer. Mais Di Stéfano, je te le sors, moi, je te dis, l'ancien joueur, je me rappelais plus son nom, mais je te dis que ça, c'est des légendes. Vous comparez pas quand même.
Alors, on le met quoi quand on dit Thauvin, alors? Quand on parle de Thauvin à l'OM, on dit quoi?
Joueur historique de l'Olympique de Marseille.
Non, pas
joueur qui a marqué le club. Joueur qui a marqué le club.
C'est un ancien joueur. On l'appellera pour les 10 ans, pour les 40 ans, on mettra. Ce sera pas première, pas la table.
Ah ouais?
Il n'est pas à la table.
Ok, Eric, toi.
Rudy Voleur, de Papin, d'Eric, de Maché.
Est-ce que Voleur, comme tu dis, est une légende de l'OM, Eric?
Rudy Voleur, pas une légende.
Rudy?
Ouais.
À la moustache, quand même.
Légende de l'OM ou pas, Rudy?
Ah, quand même.
Alors, c'est plus une légende de la Roma. J'avais été impressionné. Quand tu vas à Rome, tu parles de Rudy. C'est impressionnant.
Ah, c'est vrai, mais c'est moins, par exemple, Rudy Voleur qui a gagné la Ligue des Champions, c'est moins une légende que Waddle qui n'a pas gagné la Ligue des Champions.
Exactement.
C'est ça.
C'est pour ça que le débat est intéressant. Et moi, pour répondre sur Drogba, c'est, moi, je l'ai vu quand il est venu pour la flamme olympique, voire pour, il a dû revenir pour un
autre. C'est une idole, de vieux, là.
Ah ouais, c'est impressionnant.
Tu confonds avec Jules.
Il a passé qu'un an. Et c'est impressionnant. Il a marqué les esprits. Et donc, c'est pour ça que le coup de, les titres, pas les titres, le temps que tu restes, c'est presque comment, on c'est quoi le mot, Pierrot?
Secondaire.
C'est presque non, c'est presque surréaliste le fait.
C'est impalpable.
Oui, c'est Pierrot. Ouais, Pierrot, il va trouver le mot.
Subjectif.
Mais Zidane, il a jamais joué à Marseille. C'est une légende de Marseille.
C'est pas correct. À part dire toute ta vie, je sais pas si je peux te
dire. C'est irrationnel.
Il est beau ce mot.
Ah oui, c'est
irrationnel. C'est-à-dire que rentrer dans la légende, mais dans tous les clubs, c'est irrationnel. C'est-à-dire que il n'y a pas de critères. Alors le premier critère, bien sûr, si tu gagnes des grands titres, tu rentres dans la légende. Pour moi, la légende de l'OM, c'est les années 70. Tu parlais de Skoblar, Magnusson. Moi, chaque fois que quand je suis arrivé à l'OM dans les années 80, j'avais rencontré dans le quartier où j'ai eu mon premier appartement, il y avait un monsieur qui est une légende. légende de l'OM qui s'appelle Félix Pironti, qui a été un avant-centre qui mettait beaucoup de buts dans les années 50. Il avait un bar. La première fois que je suis allé le voir, je suis allé dans ce bar parce que je savais qu'il était là. Je suis allé pour le voir. La première fois que je l'ai vu, c'était pour moi. C'était pour moi. Je rencontrais une légende de l'OM.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui est devenu ce monsieur?
Il était déjà très vieux dans les années 80. Il a dû nous quitter. Jean-Robin, qui est le monsieur qui m'a recruté, qui a gagné des titres, des coupes dans les années 50, qui a été entraîneur du centre de formation, voire des pros, c'est une légende. Mais de ces générations-là, le doublé 72, il y a des joueurs qui sont dans l'histoire du club, mais qui ne sont pas des légendes.
Le Belge, Francis, il est plus connu que Thauvin.
Ah, mais Götze, c'est une légende, en parlant de Belge. Götze, c'est une légende.
Donc, oui, si tu veux, concernant le petit Thauvin, et on peut mettre dans le même débat le petit Dimitri Payet. Le gros problème, alors moi je dirais que c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire des années 2000.
Ils ont marqué le club.
Dimitri Payet qui a fait toutes ces saisons-là avec des buts extraordinaires dans les coupes, et Florian Thauvin, ils auront marqué, les jeunes en parleront, mais après il faut peut-être faire avoir un truc
en plus,
peut-être supplémentaire, ouais, en plus, tu vois. Donc, alors, en plus, moi,
avant
que
la vie de
Thauvin, je
Steve,
l'adore,
ce genre de débat, ça fait énormément réagir. J'ai une question d'Olivier qui s'adresse à Vincent. Est-ce que Jean-Michel Gonzalez est une légende du 15 de France? Olivier R.
Oui, mais vous êtes con. C'est un joueur de Bayonne. C'est une légende du Pays Basque.
C'est pas une légende du 15 de France.
Non, c'est pas une légende. Le mec, il a 40 sélections.
On a le droit de le vexer.
La prochaine fois qu'il nous verra, il nous massacrera la main pour nous dire bonjour, mais c'est comme ça.
Non, il est gentil, Jamy. Mais après, au Pays Basque,
il a peur de Jean-Michel,
mais c'est pas ça, c'est que c'est gentil.
Je l'ai croisé dans mon bistrot favori.
Non, il est super.
Super sympa. En revanche, il m'a broyé la main.
Ah ouais,
représailles.
Et sois content, il pourrait te broyer.
Il aurait mérité de faire une belle carrière.
Alors, revenons à Florian Thauvin.
Si jamais on est unanime pour dire que Florian Thauvin n'est pas une légende de l'OM, ça ne veut pas dire que Florian Thauvin n'a pas été un très bon joueur de l'Olympique de Marseille.
Il a marqué les années 2010 et 2020.
Exactement. Le problème, c'est que dans ce débat-là pour Florian Thauvin, c'est le club dans lequel il doit être une légende. L'Olympique de Marseille, qui est un club exceptionnel, qui est un club historique du championnat de France, qui est un club qui, s'il avait fait la même chose dans un club moins huppé, ça aurait été une légende de ce club-là.
Comme Benjamin Nivet à 3, par exemple.
Exactement. Le problème, c'est que la concurrence est énorme et que j'ai l'impression que ce mot légende, pour moi, le mot légende, c'est un petit récipient. Il y a très peu de choses dedans. C'est pas une boîte où chacun peut rentrer. Il a fait des choses magnifiques.
C'est une belle image qu'il nous a fait.
La saison, ils vont en finale de la Coupe de l'UEFA. Florent Thauvin, c'est meilleur buteur, meilleur passeur de l'OM. Il gagne sa place pour aller avec l'équipe de France. Non, mais une légende, c'est très rare.
Est-ce que tu mets Steve Mandanda?
Steve Mandanda est une légende parce qu'il est champion de France 2010, il y a longévité.
C'est le joueur qui a porté le plus le maillot de l'OM. Alors attention, c'est intéressant. Objection.
Personnel, c'est-à-dire le mec qui a gagné peut-être une fois, il était champion.
Mandanda, c'est le joueur de foot qui a le plus porté le maillot de l'OM.
Mais qui est champion de France.
Oui, qui est champion de France.
Record de match.
Ça suffit pas pour être une légende. Faut un truc en plus. Faut avoir marqué vraiment des générations. Moi, Steve Mandanda, c'était peu.
Il a le droit de s'asseoir quand même.
C'est vrai que là, on réfléchit.
C'est une légende d'automne.
Pour Didier Drogba, ce mythe de Didier Drogba, en fait, Didier Drogba, c'est une légende à l'OM pour les supporters parce qu'il est devenu après, en fait. C'est devenu un joueur hors norme dans les grands clubs.
Mais si une légende de Marseille, il n'a jamais joué à Marseille.
Et qu'il a toujours déclamé son amour pour l'OM, tu vois.
Ça, c'est vous qui avez raconté des conneries pareilles. Il n'a jamais voulu revenir parce que, voilà, c'était comme ça.
Jean-Pierre Papin est une légende.
Il n'est pas débile. Il a compris. Il s'est mal encore.
Il était parfait jusque-là, mais là, il vient de dire une énormité.
C'est une légende de l'OM.
C'est la légende de
l'OM. N'importe quoi.
Mais là, oui, JPP revient.
Florian Thauvin, qui a fait, ma foi, une très belle carrière, un très bon passage à l'OM, mais il en faut peut-être un peu plus, c'est tout, pour être une légende.
Dans un club qui a gagné une Coupe d'Europe. Super carrière, champion du monde. Il a rien à regretter, Thauvin.
Dans un instant, Zidane ou Ronaldo, qui est le plus fort ?
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Il est 16h30 sur RMC. Dans une demi-heure, débat sur Mathieu Jalibert dans le Moscato Show. Jalibert s'est-il rendu indispensable en bleu? C'était en plein milieu du tournoi.
Oui, il s'est plus que bien défendu. Il match avec Romain Tamac. On ne sait plus qui est le titulaire incontestable, incontesté du 15 de France.
Mais
on
ne sait pas. Protégez-les. Donc, non, avait dit,
prenez un soin. Fabien Galthié, vous avez regardé tous les deux quand on l'a reçu. Il nous a dit prenez un soin.
Si on était responsable de leur malheur.
N'en faites pas trop. De leur bonheur en plus, ils sont tous les deux très forts. Donc il n'y a pas de souci.
Et puis, donc, ça c'est dans une demi-heure. Il faudra attendre un petit peu plus pour le petit cadeau du jour, concocté par Suzanne Folie, sous ma responsabilité.
Je ne m'associe pas à ça.
Et d'abord, on démarre donc par le match Zidane-Ronaldo. C'était à l'occasion du match amical France-Brésil en foot.
RMC, le Super Moscato Show. France-Brésil, c'est qui le plus fort ? Zidane ou Ronaldo ?
Alors, jeudi, c'est Brésil-France, grand classique du football international. Qui c'est les plus forts ? Toute la semaine, on fait le match dans le Super Moscato Show. Ronaldo ou Zizou ? Arnaud Valadon, en chiffres, ça donne quoi ?
Salut tout
Adieu
le monde.
La balade.
Alors, Ronaldo, c'est deux ballons d'or, 97 et 2002, 99 sélections avec le Brésil, 62 buts, deux Coupes du Monde, 94. Mais alors, il n'a pas joué une minute, non. Donc je ne sais pas s'il est champion.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Tu dégages. Hein.
2002, évidemment, là, doublé en finale contre l'Allemagne.
Je joue pas, quoi.
8 buts sur cette édition, 15 au total en Coupe du Monde. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire en Coupe du Monde derrière Miroslav Klose. On se souvient de la finale perdue en 98. Deux Copa América, mais Ronaldo n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Meilleure performance, une demi-finale avec le Real en 2003. Il remportera quand même deux Ligas avec les Merengues. Ronaldo, c'est aussi une rupture totale du tendon rotulien du genou droit. Un an et demi d'absence, cela changera son jeu moins explosif, même si en 2002, il marchera sur l'eau. En face, Zidane, une Coupe du Monde, 98, Ballon d'Or la même année, l'Euro 2000, une finale en 2006 avec la France, 108 sélections, 31 buts pour le numéro 10. Une seule Ligue des Champions, c'est 2002, ça volait mythique. Trois champions a remporté deux Calcio, une Liga et derrière sa carrière de coach au Real. Dans les confrontations sur le terrain, c'est évidemment avantage Zidane avec les deux têtes en finale en 98, le quart de finale en 2006 avec cette passe décisive pour Thierry Henry et dans ses France-Brésil, aucun but pour Ronaldo, deux pour Zizou et donc cette passe décisive. Et côté transfert, le Real avait déboursé 77 millions d'euros pour Zizou en 2001, alors qu'en 2002, il suffisait seulement de 45 millions pour transférer Ronaldo de l'Inter au Real.
C'est énorme, hein, alors, là les chiffres sans pour Zizou, hein. Sans pour Zizou. Après le talent,
oui, mais
le talent pur, j'ai toujours eu. Alors c'est le fait aussi qu'il soit brésilien. C'est comme un peu au rugby chez nous, quand t'es black, automatiquement t'es auréolé d'un savoir-faire, d'une culture, d'une technique individuelle.
Mais d'un autre côté, 98 sélections au Brésil, ça vaut plus que 98 sélections en Andorre. Hein.
En ayant payé,
oui,
en ayant le genou pété beaucoup de fois.
Il a 108 sélections, en équipe de France.
Donc la même
écoute, moi, c'est pas la même concurrence, c'est plus dur en équipe de France ou au Brésil.
Brésil quand même.
C'est comme être
Team USA en basket.
Surtout pour un attaquant, Pierrot.
Ouais, mais quand t'es Ronaldo, t'as pas de concurrence.
Mais
avoir 98 sélections.
Bon, après, je pense que Zidane aurait eu 98 sélections au Brésil. C'est quand même possible aussi. Donc, on va pas s'asseoir sur là-dessus. Sur les ballons d'or, mais c'est Ronaldo, il en a combien? 3?
Deux,
une Coupe du Monde, c'est à peu près pareil. Après, sur le talent pur, encore une fois, influencé par le fait que dès que tu mets Brésil, les mecs, c'est des génies, c'est si, c'est là, on en fait beaucoup trop. Des Neymar, il n'y en a pas 50 000. Il y a plein de joueurs lambda qui valent pas un pichet de cidre aussi. Donc, voilà, je maîtrise sur la technique individuelle, peut-être, mais bon, Zidane, c'est un monstre aussi. Donc, c'est compliqué de départager.
C'est compliqué, mais est-ce que t'as une,
après, quand même, dans une carrière, il y a une après-carrière. Sur l'après-carrière, si ça rentre en ligne de compte.
Pour l'instant, c'est
Zizou. Ah ben, c'est dans ta vie.
La carrière, on s'en fiche.
Si on compte, oui.
Bon, je mettrai
à la cantine.
Mais je mettrai deux vraies finales. Parce que lui, la première en 94, c'est pas un match. Donc, si vous voulez me la vendre aussi, il y a le chauffeur de bus, encore, je vais pas me répéter 100 fois, aussi, qui peut dire qu'il est champion du monde. Donc, 94,
deux finales en marquant dans chaque finale.
En marquant dans chaque finale. Donc, il en a deux, si tu préfères.
Il est deux fois champion du monde?
Non, une fois.
Deux fois champion du monde, une fois battu en finale.
Ça compte pas. pas 94.
Non, ça compte pas pour vous, mais au palmarès, il l'a. Il l'a.
Oui, mais ah, il est au palmarès.
Non, mais si tu l'enlèves, il a la même chose que Zizou. Peut-être qu'on avait commencé en disant que Zizou en avait deux.
Zizou. C'est Zizou. Et voilà, c'est le Zizi national. Voilà.
Stephen Brun.
Écoute, déjà, sur cette comparaison par rapport à d'autres qu'on a pu faire dans l'émission, l'avantage, c'est que les deux se sont joués, en fait. Puisque parfois, on faisait des comparaisons avec des mecs qui ont joué en 2010.
Et ils ont joué ensemble.
En 80, sur Platini Zidane, par exemple. Et ils ont joué ensemble. Très compliqué. C'est pas le même poste de jeu. Maintenant, moi, je veux partir du principe que si je fais une équipe, qui je prends? Je pense que je préfère prendre Ronaldo parce que c'est une position de jeu qui est plus déterminante pour gagner un match, un numéro 9. T'as plus besoin d'un numéro 9 pour mettre des buts, pour gagner des matchs que...
Il me manque que des billes.
Que Zizou. Ronaldo, le problème, c'est que je trouve que la fin de carrière de Zidane est mieux que celle de Ronaldo. Mmh. Ronaldo a eu des gros problèmes physiques.
Il a pris du poids.
Je pense que ses stats auraient pu être encore plus immenses s'il n'y a pas ses problèmes de genoux où il est obligé de se faire
opérer. Il a deux énormes blessures dans sa carrière. Hein.
Deux énormes blessures où il revient, mais avec un physique qui est différent et malgré tout, avec quelques kilos en plus, il détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur cette deuxième carrière.
En changeant son jeu.
Moi, j'ai plus été fasciné par Ronaldo le Brésilien que par Zidane.
Fasciné, c'est le problème de la fascination, c'est que t'es influencé.
Oui, non, tu es fan, en fait.
Ouais, je suis pas fan de ni l'un ni l'autre. Alors, Adrien est fan de Zidane.
Non, alors, écoute, c'est très difficile de partager. On pourrait penser qu'avec deux ballons d'or, tu votes Ronaldo. Mais je vais pas m'arrêter là. Je pense que la seule question, c'est de savoir quel est celui qui a le plus d'influence sur le collectif. Et pour moi, c'est Zidane. C'est le seul critère que je vois.
En fait, c'est facile parce que tu prends comme critère celui sur lequel Zizou est forcément numéro un.
Non, mais d'accord. Mais il fait deux finales.
Oui, mais pour toi, c'est plus important.
Tu fais deux finales de coup. Non, grâce à lui. Je suis désolé, la première, il te l'a fait gagner.
La deuxième,
en 2006, il marche sur l'eau, Zidane.
Ah, Ronaldo aussi,
la première, il te fait gagner. Oui, mais il te fait gagner 2-2. Oui, mais enfin bon, en finale, il a été pas décisif. Sur la finale, il a marqué un but.
Mais c'est pas. Denis, juste avant l'émission, tu nous dis attention, Ronaldo, il a été empoisonné avant la finale.
Ah oui, avant
l'émission. Mais la finale,
la Coupe du Monde
2002, Ronaldo, il est injouable.
Oui, il est injouable. Mais tout le monde.
Non, mais il faut bien le
Zidane en 2006.
D'accord, le débat, c'est le départager.
Zidane n'est pas comme ça en
2018. Le fils Tapi, il s'est battu en off, ça compte pas.
Avec le cœur,
il s'est battu en off, ça compte pas.
Et puis, il y a quand même une Coupe d'Europe qui gagne.
La Ligue des Champions.
Qui fait gagner. Encore une fois, il est influent puisqu'il l'a fait gagner. Moi, je dis Zidane. Sans problème.
Alors c'est rigolo parce que quand dans toutes les interviews qu'il donne, à chaque fois on leur pose la question, Ronaldo, on lui dit quel est le meilleur joueur dans l'histoire de ta vie avec qui tu as joué, il dit Zidane sans hésiter. Zidane, quand tu lui dis, il dit Ronaldo. Non, mais ils ont joué avec des joueurs.
Il va pas dire c'est Zidane.
Mais ils ont joué ensemble en plus.
Non, avec qui tu as joué?
Mais ils s'apprécient énormément.
Ils se sont régalés au Real Madrid.
Ils se sont régalés ensemble.
Et tout. Et puis après, c'est deux tellement grands joueurs que les mecs se respectent. Ils vont pas dire c'est moi le plus fort.
Pierrot, question moyenne pour Pierre Dorian. Dans le PSG actuel, tu es le président, on te dit. Pour deux saisons, tu prends Zidane ou Ronaldo, tu prends qui, Pierrot?
Effectivement, je prends Zidane.
Bah oui, moi aussi.
Les Français, dans une
équipe. Mais bon, ça ne me dérangerait pas si c'est l'autre qui signe. Hein.
Et d'avoir les deux.
Non, mais tu choisis Zizou.
Tu peux pas avoir les deux.
Mais si,
l'un ou l'autre.
Ouais, mais la première année, tu dis c'est l'un, et puis après la deuxième année, tu dis vraiment l'autre.
Le prince, il a dit les deux.
Par contre, t'as pas donné ton avis.
Mais je vous jure que c'est vrai, je n'arrive pas à me déterminer. C'est trop dur.
Tu l'as eu, t'as eu Neymar. T'as le même truc.
Ouais, mais Neymar un peu en dessous de ces mecs là quand même.
En dessous de Ronaldo techniquement, tout ça.
Peut-être pas techniquement, mais dans la réalisation de sa carrière, il est en dessous.
Dans la réalisation de sa carrière. Oui, mais dans le joueur de foot.
Mais non, mais il est aussi fort, mais c'est un gâchis par rapport à ce par rapport à sa vie.
Parce que tu es obligé de prendre en compte quand même l'accomplissement.
Le mental.
Eh oui. Le mental, l'accomplissement, la réalisation.
L'investissement, tout.
Mais ce qui est dur dans ce débat, c'est que pour le coup, parfois on plaisante, ils sont vraiment à la même table.
Oui,
ils partagent. Alors moi, il y a un truc qui m'inquiète. Si tu mets les deux à la même table, ou tu mets Brendan Chardonnay?
Alors Chardonnay à la table des petits.
Moi je pense que c'est
pas des ados.
Non, c'est sur le tapis. C'est Jacouille la fripouille. Tu jettes du frolic. Mange mon gueux.
Le problème, si c'est Ronaldo et Zidane à la même table, Zizou il mange pas beaucoup. Il a pas beaucoup de...
C'est dur de les comparer, hein.
Ouais, très dur.
Tous les Français vont dire Zidane, tous les Brésiliens vont dire Ronaldo.
Ouais.
On passe à autre chose.
Non, mais c'est ça. Et
puis Ronaldo, dès que tu l'interroges, il dit le plus fort avec lequel j'ai joué, c'est Zidane.
Voilà.
Et Zidane, il dit moi le plus fort, c'est Ronaldo. Donc match nul.
Ça, on passe à toute autre chose. Et vous adorez les Jeux Olympiques, nous aussi.
Les JO, oui.
Particulièrement le biathlon. L'équipe de France a fait une razzia pas possible aux Jeux Olympiques. Ils étaient nos invités au lendemain de la cérémonie de clôture de ces Jeux de Milan-Cortina.
On dirait Albertville.
C'est parti.
Bon, la première, c'est parti. Le deuxième, c'est bon. Troisième, c'est bon. La réalisation va passer vite. 4 sur 4, c'est bon. La dernière. dernière, la dernière, le titre olympique pour l'équipe de France. Julien Simon va aller réaliser le plein. Quelle démonstration, wow. La dernière ligne droite vers le bonheur, vers l'or olympique pour l'équipe de France, pour ce relais mixte. Les bras levés, le poing levé, Julien Simon, la révérence devant l'immense tribune d'Anton Zanter-Selva. Julien Simon va franchir la ligne d'arrivée. C'est fait, la France est championne olympique du relais mixte.
Allez, c'est le premier tiers du deuxième relais, Emilien Jacquelin.
J'ai skié, comme on dit, il a remonté beaucoup de places, il rentre en 7e position. Donc voilà, maintenant il faut mettre les balles absolument, et Button qui loupe la première balle.
Allez, Emilien, deux erreurs pour Button. Il y a un coup à jouer. Ah, il y a un coup à jouer pour les Français peut-être. Allez, Emilien, il n'a toujours pas lâché sa première balle. Ça va repartir en tête pour l'Allemagne. 1 sur 1 pour 2 sur 2 pour Emilien. Il engage le tir. 3 sur 3. 4 sur 4. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est parfait.
C'est parfait. Il replace le relais.
Les derniers mètres. Océane Michelon. Il y a de l'écart. Il y a de l'écart. C'est pas terminé.
L'arrivée est très très longue.
Allez, elle va passer sous nos yeux. Allez, Océane. Allez, on sait. Comme c'est proche là.
Et Julien qui est en train de tout faire. C'est juste devant nous.
Oh, la double. Elle s'est arrêtée, Bobardikova. Elle est cramée. Elle est rôtie. Et elle s'est fait dépasser. Elles vont faire 1 et 2. Le doublé fou de l'équipe de France. Le bouquet final de cette équipe de France. En or et en argent. Océane Michelon déboule. La dernière ligne droite. À 23 ans. Elle l'a compris. Elle le célèbre. Elle va décrocher l'or olympique pour Océane Michelon. Et le sprint derrière. Julien Simon va prendre la deuxième place. Doublé français. 1 et 2. Quelle finale!
Vous avez reconnu Julien, Richard et Anaïs Chevalier Boucher qui est avec nous également. Anaïs, salut.
Salut à tous. Salut.
Tu t'es régalé pendant ces JO avec Julien là. Hein.
Je me suis régalé et on m'entend pas trop à la fin parce qu'à chaque fois j'étais beaucoup trop ému pour dire quelque chose.
Ah, ça a été une radia fantastique. Alors le problème avec le biathlon, c'est que le temps de présenter les palmarès, c'est très très long. Donc ça prend du temps sur les interviews. Ouais. Mais il faut quand même le rappeler. L'équipe de France bat tous ses records au JO d'hiver. 23 médailles, dont 8 en or. Le biathlon à lui seul, Vincent, rappelle 13 médailles, dont 6 en or. On est donc avec Julia Simon, Emilien Jacquelin et Océane Michelon. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Salut.
Oui, Emilien, si je dis pas de bêtises, il y a des petits yeux un peu
rouges. Il est cramé, Emilien.
C'est pas, hein.
Non, non, il est cramé.
Je suis complètement cramé, je l'assume.
C'est rentré de Milan en tramway. Oui. En tramway, ouais, en deuxième classe au fond du bus, là-bas.
Ce n'est qu'une impression.
Ouais. Ah, c'était un peu dur, là, le retour.
C'est un peu dur. Et donc, vous êtes arrivé ce matin à quelle heure?
Bah je sais pas, moi je suis rentré il y a deux jours, mais je pense que les camarades là
6h40.
Pardon ?
6h40.
Ah, trop tôt pour moi. Ouais.
Le bus. Ah, mais on sait gâter les gosses qui ont des médailles d'or, non ? Attention, on sait les récompenser.
La bus couchette, hein.
Ah oui.
Alors.
Bus couchette.
Bus couchette. Hein.
On va rappeler quand même votre quinzaine olympique. Julia, c'est l'or relais mix, l'or sur l'individuel, l'or avec le relais féminin et l'argent sur la mass start. Il y a 4 médailles autour du cou. Là, vous pouvez d'ailleurs nous voir sur la chaîne YouTube RMC Sport. Hein, si vous voulez admirer des belles médailles olympiques, il y en a un paquet. Océane, l'argent sur le sprint, l'or en relais et l'or sur la mass start, et puis Emilien, le bronze sur la poursuite et l'or avec le relais. Alors par qui on va commencer? Peut-être par Océane. Premier JO, première course, tout de suite une médaille. Tu repars avec un titre sur
pas
la
trop déçu.
Oui, pas trop déçu, comme on dit.
Waouh, faire mieux, mais bon.
On peut faire mieux. Alors, c'est quand même assez exceptionnel ce que tu as vécu là.
Ouais, non mais c'est... Bon, c'était complètement fou. En plus, ça a été long avant de démarrer. J'ai attendu 10 jours parce que j'étais pas sur les premières courses. Et c'était une très belle manière de commencer ces jeux. Donc, ça m'a un peu libéré pour la suite. Et puis après, ça a roulé. C'était que du bonheur.
On a l'impression que, en tout cas, quand on voit à l'image, hein, la pression était plus importante sur les courses individuelles qu'en relais. En tout cas, ton émotion avait l'air encore supérieure.
Je suis quand même quelqu'un qui a tout le temps la pression, donc globalement donc pas trop, mais en tout cas j'en avais quand même moins que d'habitude, donc c'est pour dire d'habitude comment c'est. Mais non, franchement, c'était j'ai su la gérer, et c'était pour l'avant-course, ouais, forcément un peu de tension, mais dès que c'était parti, ça déroulait, c'était simple, j'ai essayé de rester dans la simplicité, et c'était cool.
À quel moment t'as compris que t'étais championne olympique?
Sur la mass start?
Sur la mass start.
Je crois que je l'ai toujours pas compris. Jusque
à la ligne d'arrivée, tu n'arrives pas à comprendre.
Bah, avant, quand même, non.
En fait, le truc, c'est que je me dis que ça peut le faire, mais dans.
Rappelons le scénario, tu sors du dernier pas de tir, t'es pas première, hein. Il y a une tchèque devant toi.
Non, je suis quatrième.
T'es quatrième ?
Je suis quatrième, ouais.
Ok, oui.
Ouais, donc là, il faut patiner quand même.
Donc il y a Julia devant toi, une Tchèque, une Italienne, c'est ça ?
Une Suédoise,
excuse-moi.
Et une Tchèque.
Je m'y perds. Et donc, tu as tout remonté à ski et tu passes la Tchèque. Il reste quoi ? 500 mètres ?
Ouais, à peu près.
Oui, en fait, tu rentres dans les skis de la Tchèque et tu décides de passer.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu décides de passer parce que tu te sentais plus forte ou est-ce que tu décides de passer parce que tu dis c'est le moment d'y aller ou alors tu n'as pas réfléchi
Je me suis dit que c'était maintenant parce que on est un peu des mêmes années avec Teresa et je pensais qu'en vitesse pure sur la bosse, ça pouvait être le moment de faire la différence parce que à la glisse, j'ai vu qu'on était assez kiff-kiff. Bon, on était quand même un peu au-dessus, mais c'était pas là que j'allais faire la diff, donc fallait que je la fasse un peu avant. Donc j'ai essayé et après on avait une compression et une longue arrivée. Et au début on me dit oui c'est bon t'as pris de l'avance et après à la fin de la descente on me dit par contre mets-en jusqu'au bout parce que mets-en jusqu'au bout quoi. Ouais. Et je sais pas comment je me retourne et en fait je vois pas Teresa, je vois Julia derrière moi et là je dis waouh non alors non c'est pas du tout fini là, on y va là
Julia t'as peur hein.
Ah ouais bah attends elle l'a déjà fait à Nové là c'est bon ça suffit je me dis pas cette fois du coup c'était quand je l'ai vu dans mon angle mort je me suis dit non, on y retourne et après ça
t'as un appel d'air quand c'est derrière c'est comme un formulaire
aspiration.
T'as une aspiration quand c'est derrière
même vitesse
tu le ressens ça
regarder les cours
ouais,
bah. T'as regardé.
Non, mais c'est toujours curieux. Tu vois, on te dit en Formule 1 parce que ça bat 200 à l'heure. Ouais. Là, on a du mal à. Comme un vélo, remarque, tu me diras.
C'est là qu'on.
Te plaignes derrière, tu fais faire le travail. À un moment donné, il peut y avoir des relais si c'est long, si la distance est longue, pas sur un sprint, bien entendu, mais vous vous démerdez, même avec un adversaire, que chacun prenne ses relais ou des trucs comme ça. Non, ça peut pas marcher, ça.
Quand c'est dans les descentes, après, l'aspiration fait que des fois, on se double tout seul, mais après, par contre, tout le reste du tour, des fois, on essaie de se faire des relais parce que sinon, c'est tout le temps le même qui marne, à part quand on n'a pas envie de se mettre devant et qu'on se sent pas en forme, mais sinon, on essaie de bosser ensemble, sinon, derrière, ça revient.
Bonne question que j'envoie là.
J'écoute pas.
Ouais.
J'ai l'impression. Il est toujours rôti.
Vous avez un coquin en équipe de France de biathlon avec Emilien, j'ai l'impression. Hein.
Voilà.
Julia, 3 médailles d'or, 1 d'argent. Donc, est-ce que cette médaille d'argent, malgré ce bilan exceptionnel, te laisse un peu les boules ou ça va ?
Non, pas du tout. Non, je pense que la course, vu mon état de forme, je suis vraiment très satisfaite. J'ai été cramée dès le premier tour, moi. Donc, je n'ai plus joué à la stratégie. Okay. Justement, un peu à l'intox, clairement, à arriver sur le pas de tir en tête pour dire ouais, je suis là, je suis confiante, alors qu'en vrai, j'étais rincée complet.
Okay.
Et quand on ressort à peu près en même temps, je la vois, il y a l'écran géant devant moi, je la vois, je dis bon là, je suis incapable de sauter dans ces skis. Et après, moi, je vais la chercher à l'énergie et à la tronche parce que je suis complètement rôtie et je passe la ligne, je m'explose par terre et je me démonte le genou tellement je me suis étalé fort dans la ligne d'arrivée. Donc, zéro frustration. Ça serait quand même, on est aux Jeux Olympiques, c'est une médaille. Ça serait trop fort de dire qu'il y a de la frustration.
Tu avais fait une impasse, c'est sur la poursuite, c'est ça ?
Parce que
le programme était trop chargé ?
Oui et non. J'avais des problèmes de ventre, j'avais mal au ventre. Donc, j'étais pas du tout en forme pour pouvoir assumer une compète quoi.
Alors faut que tu nous expliques quand même cette vitesse de tir parce que c'est hyper spectaculaire. Il y a pas besoin de s'y connaître en biathlon pour savoir que Julia Simon ça tire plus vite que son ombre quoi. C'est un truc que t'as depuis toujours. Ça se travaille. Comment tu acquiers ce truc?
Moi, je pense que je l'ai depuis toujours, la facilité de tirer rapidement. Après, le problème, c'est qu'au début, je tirais vite, mais à côté. Donc, j'ai essayé de travailler un peu ça. Mais non, je l'ai depuis toujours. Après, en fait, c'est mon biathlon. Moi, je réfléchis pas. Quand j'arrive, je reste concentré sur des points, des choses clés à faire et j'engage. Et c'est ce qui passe bien, mais je me sens toujours dans le contrôle de tout. Je vais jamais dans l'excès. Et de toute façon, le biathlon d'aujourd'hui, c'est ça. C'est la
rapidité. Sur le tir, il faut beaucoup de confiance en soi, quand même.
Ouais, ou faut faire semblant d'avoir un peu de confiance aussi.
Oui,
il y a de l'intox aussi des fois de dire.
L'intox, mais pour toi maintenant tu mets tout dedans, donc il y a quand même cette dynamique que tu as en toi.
Ouais, j'ai la dynamique. Après, j'ai aussi de la stratégie. J'aime bien aussi des fois vouloir lâcher la première plus vite et derrière je me reprends parce que je sais que finalement si j'enchaîne la première et la deuxième ça va sortir. Donc lâcher la première très rapidement pour mettre la pression et derrière peut-être reprendre une respiration de plus. Mais ça dépend. Il faut aussi avoir la lucidité. Ça demande d'être tout le temps présent et ça dépend du moment et c'est de l'adaptation sur le moment quoi.
Oui, puis tu peux aussi dire que t'as mis du temps à arriver à ça. Enfin, tu tirais vite, t'as toujours tiré vite, mais il y a des fois où quand t'étais plus jeune, c'était peut-être trop vite et trop dans l'excès. Et ça, tu l'as construit. Ça fait plusieurs années où maintenant, on sait que t'es capable de tirer vite et bien. Mmh. Et ça vient pas comme
c'est,
ça.
C'est jeune, non? Tu disais, j'ai lu un article de toi, tu disais que tu tirais souvent sur des pigeons à 4005 quand t'étais petite et que tu t'es régalé avec des rouges de bronze.
Je sais pas ce que t'as lu comme article, non. Mais là, c'est un truc genre Wasp Closer, un truc dans ce style-là.
Dans Chasse Magazine.
Non, moi je préfère les marmottes.
Les marmottes,
c'est plus rigolo.
Non, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Le debout, j'ai toujours eu la fibre. Après le coucher, on est reparti à zéro il y a 5 ans. Donc j'ai eu pas mal de prises de tête avec Polo, hein, le coach, Jean-Paul Giacchino. Il fallait que ça aille vite, je voulais que ça marche. Et ça demande du temps, ça va maintenant.
On a bien écouté Julien et Anaïs pendant toute cette quinzaine, et tu as une autre caractéristique qui n'est pas partagée par tous les biathlètes et toutes les biathlètes, c'est que tu adores être devant, première, à enfoncer les autres au mental, quand d'autres préfèrent chasser, peut-être être derrière et revenir. Toi, tu préfères dominer les courses.
Moi, j'aime bien les deux, hein. Ouais. J'aime bien les deux, mais
les positions te conviennent.
Bah, je pense, grâce aux filles, j'ai appris à être devant au relais, parce qu'elles ont toujours fait des courses assez incroyables, et puis elles me balancent devant avec 40 secondes, une minute, et puis vas-y, va gérer tes émotions et ton stress. Donc j'ai appris à le gérer. Après, j'aime bien la stratégie. Justement, j'aime bien la stratégie. Dans une course à confrontation, il y a des moments où il faut être devant, des moments où il faut être derrière, et j'aime ça en fait. Juste laisser parler mon instinct animal, et ça me fait pas peur d'aller devant. Oui, et c'est quelque chose qui me plaît aussi.
Bon, sur ces JO, Julia, Anaïs, elle avait l'air d'une tueuse, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque course, elle avait l'impression que c'était la numéro un, quoi.
Oui, mais parce que c'est quelqu'un qui dégage ça. Julia, on la connaît. Ce que je disais, on n'aime pas avoir Julia derrière nous dans un dernier tour. On n'aime pas l'avoir à côté de nous sur un dernier tir. C'est quelqu'un qui a un ascendant psychologique qui est vraiment important sur les adversaires. C'est ce qui fait sa force.
Moi, elle me fait peur, là.
Regarde, tu fais bien. Tu fais bien.
J'ai pas mangé à midi, en plus.
C'est fou, parce que cette force entre la neige et le tir, il va y avoir du boulot au Groenland, là. Si ils mettent un trampoline en baillite, tu vois une armée, t'engages dans l'armée, non?
Du coup, je les laisse partir devant, puis
Emilien, alors, parlons un peu de ce relais masculin. C'était une médaille qui nous échappait, donc c'était un titre qui avait encore un peu plus de valeur peut-être que les autres. En tout cas, c'était un objectif et c'était pas simple, surtout que Fabien Claude ne réussit pas son premier relais. Tu prends le relais, la France est 20e. Bon, ce qui est quasiment rédhibitoire. En tout cas, pour une médaille d'or, ça semblait impossible. Alors, raconte-nous ton relais, dis-nous comment tu l'as géré, qu'est-ce qui s'est passé.
La vérité, c'est la veille au soir, on discutait avec les gars de l'équipe et je disais que c'était la gagne ou l'hôpital le lendemain pour le relais. Donc même si Fabien, malheureusement, avait fait un tour de pénalité, dans ma tête, je voulais pas que l'or nous échappe. Donc tout simplement, j'ai fait ma course en ayant cet objectif de donner mon maximum pour reprendre ce temps-là. J'avais pas envie de jouer la médaille de bronze ou la médaille d'argent, c'était l'or ou rien avec cette équipe. Et je suis content, ouais, d'avoir su faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire entreprendre, engager, et ça a marché le jour le plus important de ces 4 dernières années.
Mais est-ce que tu y allais comme un kamikaze, ou est-ce que c'était quand même réfléchi, calculé,
maîtrisé, calculé, réfléchi?
Vu le sourire, j'ai pas l'impression.
C'est des mots qui me collent à la peau depuis des années.
On sentait que t'étais en état de grâce.
Oui, oui, dans le sens où
habité.
Habité, et je l'ai été pendant les deux derniers relais de Quentin Fillon-Maillet et d'Éric Perrault. Je peux vous dire, j'étais possédé à le bord de la piste, comme je ne l'ai jamais été à supporter mes coéquipiers. Je pense vraiment que cette médaille, on la voulait. Le biathlon masculin l'a jamais faite depuis X années, malgré le nombre de champions qu'on a eu et de talents. On le savait, on avait les moyens de le faire. La Norvège aussi avait le moyen de réaliser cet exploit. Mais je pense qu'on avait encore plus envie qu'eux, et ça s'est vu sur la piste au Pâté.
D'attaquer un chasse-neige, c'était pour les surprendre, ou c'était tactique?
Chasse-neige. Ouais, des fois, en descente, faut faire gaffe, on fait attention.
Il y a quand même un risque dans ces cas-là d'exploser physiquement.
Il y a toujours un risque, hein, mais quand on entreprend, il faut savoir aussi accepter le doute ou l'échec.
C'est t'en apnée, à la fin, quand tu finis. T'en apnée.
Ouais, je vois noir. Hein. Ah ouais, je ferme les yeux. Donc,
on le voit quand vous arrivez, les fils.
Le cardio, c'est monstrueux.
Cardio, c'est monstrueux. On est en altitude, donc ça veut dire que l'oxygène est un peu plus rare. Donc vraiment, dans le corps, c'est sauf qui peut. Et,
Et on essaye de rallier l'arrivée tant qu'on peut.
Faut prendre une petite bombe de Ventoline.
Ouais, 4 ou 5 même.
4 ou 5. Quand tu dis je vois noir, c'est-à-dire c'est les derniers hectomètres de course, et qu'est-ce qui se passe dans ton corps?
Ouais, sur le sprint, je finis 4e à 2 dixièmes, et je peux vous dire que le dernier kilomètre, je suis content de pas m'être trompé de piste, tellement je voyais pas ce qui se passait devant moi.
T'as asphyxié complet.
Asphyxié, et le corps, il se met en veille, et tu pousses juste parce que par habitude et par adaptation, tu as l'habitude de le faire, mais vraiment, le corps est plus capable de
dixième,
mettre de l'énergie. Hein.
Deux dixièmes, c'est rien.
Deux dixièmes, c'est frustrant. On fait des choses en deux dixièmes. C'est rien, mais bon, ça fera partie de mon histoire, deux dixièmes, c'est comme ça.
Mais ça veut dire que tu n'as plus aucune lucidité sur ta fin de course.
Ouais.
Tu peux pas arriver sur un tir dans cet état-là. Il faut que t'en gardes un peu quand même avant les tirs, non?
Le tir, c'est sûr, c'est différent. Il faut quand même garder un bout de lucidité. Après, sur les skis, le but, c'est d'être capable de mettre 100% de ses capacités sur une course, notamment sur les Jeux Olympiques et sur toutes les courses. Je pense que j'ai donné mon maximum. Mais ouais, à vraiment se mettre dans des états où il n'y a plus une once d'énergie pour essayer de relancer.
Quelle est l'importance du matériel? On se rend pas bien compte, mais l'équipe technique qui vous prépare vos skis, quelle part dans la réussite, dans toutes ces médailles que vous avez autour du cou là? Peut-être qu'Anaïs, tu peux nous en dire un mot.
Oui, il y a une grosse part du travail des techniciens. En tout cas, nous, de ce qu'on a vu, c'est que la première semaine, clairement, ils étaient vraiment au-dessus. Les Français avaient vraiment les skis qui étaient au-dessus des autres nations. Peut-être que, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais peut-être que sur la deuxième semaine, ça s'est un petit peu rapproché. Quoique sur la Master des filles, je pense qu'avec la neige, vous étiez quand même bien au-dessus. Mais c'est sûr qu'elle a ça a une importance prépondérante dans vos matériel, performances.
Ouais. Ils ont fait preuve d'une adaptation incroyable, parce que les conditions en altitude, c'est compliqué. La neige peut évoluer d'un instant à l'autre, notamment sur quelques courses des filles où la neige s'est mise à tomber sur Antols. Et ils ont su s'adapter, ils ont su prendre les bonnes décisions. Et souvent, nous, quand on n'a rien à dire sur les skis, ça veut dire que ça va très bien. Donc c'est vrai, c'est un travail de l'ombre qu'on met pas souvent en avant. Malheureusement, on en parle plus quand ça va pas. Mais sur cette quinzaine, nos médailles sont les leurs. Parce que sans eux, on finirait 50e. On serait incapable de jouer les médailles. Donc merci à eux, parce qu'il y a d'autres grosses nations qui sont passées à côté, notamment à cause du fardage. Exactement. Donc un grand merci, parce que ils ont fait un travail exceptionnel sur cette quinzaine.
Alors on est en radio, vous avez tous un casque sur les oreilles. Est-ce que tu as la boucle d'oreille de Marco Pantani? Ah voilà,
elle est là.
Alors raconte-nous un peu cette histoire.
Ah oui, c'est incroyable. Comme je l'ai dit, c'est un idole d'enfance qui m'a donné envie de faire du sport, premièrement, qui m'a donné envie, en tout cas qui m'a donné ce goût pour le panache et pour l'audace sur les courses, qui t'a des fois me flinguer moi-même.
La coupe de cheveux aussi.
Ah, la coupe de cheveux, c'est la vie qui m'a donné. Ça, c'est, on se comprend. Ouais. Ça, c'est un don de Dieu, ça.
Ouais, moi, c'est pas pour Pantani, mais bon.
Comme ça.
Ouais, c'est naturel.
C'est plus Vincent Lagaffe, choses comme ça, nos idoles. Le Big Deal.
Et tu vas lui rendre le. Non.
Je vais c'est prévu qu'au mois d'avril, je vais voir la famille de Marco, donc la maman Tonina, pour lui rendre la boucle d'oreille, mais moi, j'avais envie de lui rendre hommage, non pas pour me porter chance sur ces Jeux Olympiques, mais en fait, je pense qu'il faut avoir devoir de mémoire.
La prochaine compétition, tu mettras son foulard.
Et la prochaine, je vais avoir le gant doré de Michael Jackson.
Le vélo, c'était ta passion?
C'était mon idole, Michael, depuis que je suis petit. Donc,
c'était une de tes passions, le vélo?
Ah, j'ai fait du vélo jusqu'à mes 16 ans. Je me suis toujours rêvé champion cycliste, avoir le maillot jaune du Tour de France, plus qu'être champion de biathlon. Ah ouais. Donc c'est quelque chose qui reste en moi. Et c'est vrai que des fois, ma manière de faire du biathlon peut paraître étrange, mais des fois je pense plus échapper que biathlon.
Tiens, Julien et Océane.
Si tu mets Zorro, si tu mets pas le but du Sergent Garcia quand même.
Bah là, ça tombe bien parce que je suis vraiment fan de Zorro. Et c'est à la fin de saison, du coup, j'aurai le masque.
Le masque, oui.
Bravo. Julien et Océane, est-ce qu'il a une manière bizarre, comme il dit, de faire du biathlon, Emilien?
Bah, c'est lui en fait.
Ouais, non, pas bizarre.
Il est unique.
Non, mais c'est que c'est comme ça que ça lui réussit le mieux. C'est comme ça qu'il est le plus naturel. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il a ces capacités-là. Et quand il est comme ça, c'est qu'il a 100% de confiance en lui. Et ça lui permet d'aller au-delà de certains athlètes. Et ça lui permet de performer comme ça. Donc c'est cool.
Merci à tous les trois. En tout cas, Julia Simon, Océane Michon et Emilien Jacquelin d'être venus dans le Super Moscato Show. Et Adrien revient tout de suite avec un festival de mâchoires paralysées.
Des mâchoires paralysées
dans le journal moyen.
En direct, des mâchoires paralysées, des saucisses. Et puis, il y en aura une, je pense, entre 17h et 18h, un petit bonus de mâchoires paralysées, Pierrot, que tu nous as concocté.
On va voir, c'est un cadeau. Donc, d'accord.
En tout cas,
dévoilé à l'avance.
Déjà, première louche, première ration dans quelques secondes dans le journal moyen.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Vous êtes sur RMC, il est 16h45, c'est l'heure du Journal Moyen, deuxième édition.
La deuxième édition du Journal Moyen, festival de mâchoires paralysées, un nouvel imitateur de Philippe Saint-André. Tout le monde pense bien imiter Philippe, non, comme Gilbert Bribois, c'est pas facile. Et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Denis Charvet, tu représenteras sur cette question Di Bouboulot, Eric Dimeco, qui nous en rejoint dans 10 minutes.
Bon boulot.
Vous écoutez RMC, c'est le 2583e Journal Moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le Journal Moyen, deuxième édition.
J'ai de la mâchoire paralysée, donc nouveau jingle, mâchoire paralysée.
Donc ça veut dire qu'on va faire rentrer dans la posture des successions.
C'est devenu un embryamnio.
Faire dire le plombier électricien.
Remo sur RMC, on va commencer léger, on va monter en puissance dans le Journal Moyen. Maria Azé au commentaire, elle est avec nous il y a quelques minutes, c'est léger, ça va Maria.
5 minutes 40 d'avance pour l'échapper sur le peloton depuis que Domen Novak, le coéquipier de Tadej Pogacar chez UAE,
on est sur un film et ouais, ça passe.
Si on avait su, on aurait pas le temps de loin.
La course est tendue, la mâchoire d'Alexandre Biggerstaff sur RMC se tend également.
Il y a eu de la chute, il y a eu des dégâts dans le peloton tout à l'heure, mais pas de soucis pour l'instant, pour les candidats favoris. Merci Cédric, je vais y arriver.
Les Faviori, ça passe. Toujours au Milan-San Remo, Jérôme Pinault nous parle du petit-fils de Raymond Poulidor. Mais quel est son nom, ce petit-fils?
Et les leaders sont très très vigilants. On voit notamment Tadej Pogacar suivi comme son ombre par Isaac Del Toro. Et très très près derrière lui, eh bien, on retrouve Mathieu Van Der Poel, le duel.
Mathieu Van Der Poel.
Il a fait du tout,
parce qu'il ne s'en rend pas compte, ils l'ont fait remarquer après. Il dit non, j'ai pas dit ça quand
Van
même.
Der Poel.
C'est le petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel. Dans les grandes gueules sur RMC, Denis Charvet, un grand classique sur Penaud, l'ailier des Bleus, qu'on aime. Aucun effort sur le prénom, Denis, aucun.
Il faut qu'il rappelle Damien Penaud s'il veut prendre des cours
d'échecs. Voilà aussi. Hein. Oh là, oui, c'est vrai, Damien qui est très fort.
Non, mais.
Damien.
Damien.
Je sais. Damien. T'as déjà eu quelques problèmes avec ce prénom-là par le passé.
Voilà. Il va falloir faire un effort, Denis. Damien Penaud.
Non, mais c'est dur parce que j'ai pas Damien.
Dans les grandes gueules du sport, hier, on a eu droit à une très belle mâchoire paralysée sur un direct venu du ski. Je déclenche le jingle mâchoire ski.
C'est solide. Il peut quasiment plus lui rien y faire.
Donc dimanche, RMC, c'était le Super G féminin en Norvège, le passage de la Française Romane Miradoli. Léna Marjac est au commentaire et là on est sur une magnifique mâchoire, un cas d'école. Merci Léna.
C'est la fin de saison, une seconde maintenant de retard et pour l'instant c'est encore sur le podium pour la Française, mais il va falloir être très très forte, il faut garder eh bien, cette position. On va chercher c'est terminé pour Romane Miradoli sur les dernières portes.
Là on est sur une fracture de la mâchoire en direct.
On peut dire que la parole.
Si vous réclamez qu'on la réécoute, je pense que c'est prévu. En version un peu plus courte. On abrège un peu la souffrance, Léna.
Il va falloir être très très forte, il faut garder eh bien, cette position. On va chercher c'est terminé pour Romane Miradoli sur les dernières portes.
C'est terminé, voilà. J'ai compris qu'elle était sortie. Puis le rugby, samedi, multiplex de top 14, 19e journée. Julien Landry commente USAP Lou et Philippe Saint-André. Il commente Toulon au Stade Français à Mayol, puisqu'il habite à côté. Courageux Julien, qui va imiter Philippe en sa présence. C'est pas mal, gars.
Alors tu n'as pas de gorée à tes côtés, mais tu es un fin connaisseur du rugby, que t'indique ton flair toi également.
La femme du facteur, je la connais par cœur, mais
tu peux refaire, c'est magnifique.
On a deux PSA aujourd'hui. La femme du facteur, mon Philippe, je la connaissais pas, hein, la cathédrale des Végirales. Je pense que les Catalans vont finir par s'imposer. Il y prend du plaisir, tu sens qu'il a fait compter à Montpellier.
Il aime bien imiter.
Et puis Philou, il prend goût. 15 minutes plus tard, c'est Philippe Saint-André qui réclame du Philippe.
Quoi faire regretter encore plus son départ, parce que il y avait quasiment des manifs du côté des supporters rouges et noirs pour qu'il reste à Toulon ou pour qu'il revienne, parce que
c'est à cause de Philippe en plus.
Il y a 6 mois.
Et oui, il avait signé à Montpellier. Exactement.
C'est à cause de Philippe.
Bienvenue Philippe.
Tu peux refaire l'imitation s'il te plaît.
C'était trop bon. La fin du facteur, mon Philippe. C'est à cause de toi.
31. C'est à cause de toi, Philippe.
31-20.
Il s'arrête plus, le mec. Denis Charvet, tu imites Philippe, non?
Non, non, mais je vais pas l'imiter. Non.
Oui, tout à fait.
Non, non. Toi, le grand chelem, c'est terminé.
Comment ça s'appelle le grand chelem est perdu, ça, c'est sûr, Vincent.
Non, mais il a de l'oreille.
Philou, mais on adore Philippe Saint-André qui nous écoute tous les jours. Et c'est pas mal, Provence Rugby X.
Ah non, mais ils sont bien là.
Ils sont pas mal. Ils sont dans les premiers.
Ouais, les premiers,
je crois.
C'est Van le premier. Oui, Van, service après-vente.
C'est la grosse équipe.
Alors, je vous propose un service après-vente du Kikadi de vendredi, puisque sur une réponse sur RMC, Eric Dimeco, c'est rare, il s'est estimé volé. Il a dit
non, c'est vol.
Ce qui a déclenché une légère paralysie de la mâchoire quand il a essayé de nous dire qu'on l'avait volé, Eric Dimeco. Peut-être plus pour plus très longtemps. Comment s'appelle le directeur d'Aston Martin?
Newey,
Stephen.
Il vient très non très chaud. Mais comment tu peux me si je le dis. Mais comment tu peux me l'enlever?
Melon, ce mélange.
Non, mais il s'est pris les pieds dans le tapis. Elle est belle, celle-là.
Il s'est pris les pieds dans le tapis.
Elle est très belle. On écoute. Newey, Stephen.
Il vient très très chaud. Non, mais comment tu peux me si je le dis. Mais comment tu peux me l'enlever?
Qui demande de le dire?
C'est bien, parce qu'on a eu la confirmation qu'il est vraiment parti 2 heures après moi.
Ah oui, 2 heures. Et puis légère absence de 20-20, ma signale une absence de Vincent Moscato, moi ça m'avait pas choqué. On se remémore à ce moment-là un drop historique de Wilkinson en finale de la Coupe d'Europe. Mm-hmm. C'était Toulon Saracens.
C'est quoi, c'est Wilkinson? Wilkinson en Coupe d'Europe, il fait gagner sur un drop,
ça rappelle
avec Toulon contre les Saracens qui est énorme.
Et il tapote sur l'épaule d'Owen Farrell.
Il est plaqué, il est au sol, le drop est parti.
Voilà, donc on se souvient, Wilkinson, Owen Farrell, la petite tape sur l'épaule, on est en train de vous raconter ce match. Légère absence, mais très légère.
Il est plaqué, il est au sol, le drop est parti, il tape sur l'épaule de, comment il s'appelle, de Barrett, de comment il s'appelle l'ouvreur.
Owen Farrell.
Il regarde.
On venait de le dire.
Demi-trois sous la pluie.
Bon, c'est Suzanne qui m'a signalé.
Suzanne, non, mais ça va pas.
Suzanne me dit, effectivement, quand on lit les deux.
Ouais.
Bon, écoutez.
Il y a une absence quand même. On écoute.
Il faut gagner sur un drop, avec Toulon contre les Saracens qui est énorme.
Il tape sur l'épaule d'Owen Farrell.
Il est plaqué, il est au sol, le drop est parti, il tape sur l'épaule de, comment il s'appelle, de Barrett, de comment il s'appelle le
voleur. Owen Farrell.
Après Barrett, il est anglais.
Allez, sans transition. Vincent, tu nous dois des explications, on a le temps. Sur un look, c'est la police de la mode.
Non, mais c'est affreux, quoi.
Oh là là.
Allez, ma chérie, bravo, ma chérie.
C'est magnifique, ma chérie.
Une archive folle est ressortie. Nous sommes en 2002. Quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby. C'était Castres à Castres. C'est sur France 2. C'est Castres-Montferrand. Match commenté par Thierry Blanco en 2002 sur France 2, accompagné de Vincent Moscato. Alors déjà, je vais vous faire écouter la prise d'antenne. Il n'y a rien qui va. C'est un match à Castres, au stade Pierre-Antoine. Et Thierry Blanco, qui veut faire le malin avec Vincent à côté, il veut faire un bon mot. Mais du coup, il n'y a rien qui va sur le bon mot.
Bonjour à tous, bienvenue au stade Pierre-Antoine à Gaillac avec un homme de Gaillac pour m'aider à commenter ce match aujourd'hui, Vincent Moscato, au moment où nous allons observer une minute de silence à la mémoire de monsieur René Coll.
C'est incroyable, c'est pas à Gaillac le match, donc le bon mot il vaut pas du tout. C'est complètement dingue. Et puis il n'y a rien qui va, c'est le début de la minute de silence, vous avez entendu, donc à la minute de silence à la télé.
René Coll,
tout le monde, à la télé quand il y a des minutes de silence, tout le monde se tait, on est d'accord. Thierry Blanco décide à ce moment-là de donner la parole à Vincent, qui est très gêné, parce qu'il est obligé de parler seul dans le stade. Donc écoutez, Vincent à l'époque, consultant de rugby sur une chaîne de télé, France 2.
Deux mots tout de même, Vincent, dans ce moment de recueillement.
Ben non.
Pour cette finale avec une équipe castraise qui a beaucoup approuvé ici aujourd'hui.
Oui, c'est sûr, ils ont l'avantage de recevoir dans ce quart de finale. Donc la pression sera sur eux, mais je crois que c'est un match déterminant puisque c'est éliminatoire, c'est un quart final de Coupe d'Europe et Montferrand aussi par rapport à son match de championnat la semaine dernière.
Sachez qu'il
n'est
pas vu
un
match.
Après Thierry, il t'envoie au casse-pipe, Thierry Blanco.
Non mais si, c'est
ce qui est dingue, ce qui est dingue, les amis, c'est allez voir, on va mettre la capture d'écran de la photo. Le look de Vincent est dingue. Chemise mauve rayée, énorme cravate bleu ciel,
sans veste,
assez serré. Sans veste.
Non, mais la tête, quoi.
Que s'est-il passé?
Non, mais c'est le regard de Greenwood. Alors, je vais vous dire quoi? C'était mon ex-femme qui m'avait abusé, c'est pour ça que j'ai divorcé.
Non, non, mais c'est dingue.
Non, mais surtout, la période de trouble.
Les yeux du veau dans la luzerne.
Ah, bah oui, non, mais les yeux du veau dans la luzerne. La capture d'écran, non, mais j'ai la tête. Ah, ouais, ça, c'était ça, c'était des Serge Blanco.
Mais quelqu'un t'a dit, ah, ouais, c'est bien,
c'est Serge Blanco, les mecs, ils disaient, c'est super, quoi, la cravate large comme ça, de 30 cm, la cravate. We'll be right back.
Ah, ça fait mal.
Moi, ça me fait rire.
Ah, bah, ça fait rire, oui.
Non, mais c'est méchant. Certains sont vexés.
C'est pas méchant, non.
Bah, oui, mais bon, quand ça se paralyse, quoi.
En plus, ça arrive à tout le monde.
Ça arrive à tout le monde.
Voilà, c'est un truc qui est vraiment universel. Ça arrive plus à certains.
Genre à qui ? À Christophe Cessieux, à
Didier Deschamps.
Didier Deschamps. Ah !
Donc, du coup, on a plus en diffuser, c'est normal.
Ça veut dire que dans la dernière heure du Moscato Show aujourd'hui, on aura un petit bonbon ?
Alors là.
Alerte Didier ?
Vous pouvez parier dessus.
Ok,
je vous dis que ça, mais vous pouvez y compter.
Dans un instant, Pierrot, juste après les infos de 17h, on va parler peut-être du meilleur numéro 10 en France. Mais quand je dis ça, je sais que je vais recevoir des messages de supporters toulousains.
Eh oui.
Peut-être Jalibert.
Toulousain, vous, dans
le qui est le meilleur ? Jalibert s'est-il rendu indispensable ? C'était avant l'Écosse, en plein tournoi où Jalibert était excellent.
Allez, on revient tout de suite pour une grosse troisième heure du Super Moscato Show sur RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.